Bonjour et bienvenue sur le podcast de la question noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâtons rompus et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré, à la radicalité assumée. La question noire. Le podcast.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La question noire, un nouvel épisode du podcast La question noire. On va parler aujourd'hui de plusieurs sujets qui sont liés, qui sont connectés les uns avec les autres, des questions du métissage, de la créolité, de l'hybridité, de tous ces sujets qui sont souvent opposés aux non-noirs, aux non-africains, et on va voir un petit peu politiquement ce que ça signifie. Le milieu du XXe siècle, ça a été un moment où les non-noirs et africains ont été les porteurs de beaucoup d'espoir dans les domaines de la culture, de la politique à travers le monde. La négritude, le black power, les décolonisations africaines, le renouveau du panafricanisme qui a accompagné ces décolonisations sont autant d'exemples de cela. C'était un moment où les peuples d'ascendance africaine désiraient ardemment trouver en eux-mêmes les ressources pour une transformation radicale de la société. En faisant aujourd'hui le bilan de cette séquence, on voit que ce moment noir et africain de la pensée politique est considéré comme périmé. Aux Antilles, la négritude d'Aimé Césaire a été jugée restrictive, régressive, étouffant la pluralité des cultures caribéennes. Ainsi, les concepts de créolité et de créolisation ont été érigés en nouveau fondement de l'identité antillaise. Les universitaires postcoloniaux et postmodernes, peu intéressés par le bilan politique du Black Power, ont dénoncé le nationalisme et le caractère patriarcal du mouvement. Ce sont les concepts d'hybridité culturelle ou de métissage qui sont présentés comme les antidotes à un prétendu racialisme noir. Enfin, le panafricanisme a subi le même sort et est délégitimé parce qu'il étoufferait le multiculturalisme inhérent à nos sociétés. En somme, pour résumer, nous vivons dans une période politique où des mots comme noir ou africain sont toujours assimilés à l'étroitesse, à la fermeture et somme toute à la médiocrité. Même si ce n'est pas leur seule fonction, on a souvent l'impression que tous ces concepts de métissage, créolisation, d'hybridité, etc., sont devenus des moyens de ne pas aborder la question noire, justement, ou bien d'en parler sans en parler. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que ces concepts ont un intérêt politique ou est-ce qu'ils sont uniquement des instruments de la suprématie blanche? C'est ce que nous allons tenter de clarifier ensemble. Je m'appelle Norman et je suis entouré de quatre invités, de quatre voix de la question noire. Je vous invite à vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Amel et je suis un ancien étudiant en histoire.
Je m'appelle Sike, ancienne étudiante en philosophie.
Bonjour, je m'appelle Véronique Gakouba et moi je suis sociologue de formation.
Bonjour, moi c'est Kossi, je suis militant panafricain au sein du PRTPA, ou Parti révolutionnaire de tous les peuples africains, et je coordonne le podcast La question noire.
Merci. En ce qui concerne, disons, les origines de chacun, je pense que on peut dire qu'on a ici exclusivement des personnes d'ascendance africaine, mais certaines, disons, plus métissées que d'autres, pour utiliser des concepts qui vont être au cœur de nos débats, d'autres qui sont d'ascendance africaine à 100%. On a donc ici un panel, je pense, assez intéressant pour pouvoir aborder les questions qui nous occupent.
Oui, il y a des premiers concernés, quoi.
Les premiers concernés et des derniers concernés.
Voilà. La question noire. Le podcast.
Tout d'abord, dans un premier moment de notre conversation, je pense qu'il est important de clarifier toutes ces notions dont je viens de parler en introduction, ces notions de métissage, ces notions d'hybridité, ces notions de créolité, de créolisation, etc. Parce qu'elles renvoient toutes, d'une certaine façon, à un même imaginaire, en tout cas, quand on les met à côté de la question noire. Parce que dans notre histoire récente, disons qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'idéologies qui ont été utilisées, souvent en réaction ou souvent en réponse aux manifestations politiques du pouvoir noir, même si elles ne sont pas souvent présentées comme telles. Je pense que du point de vue qu'on défend à la question noire, c'est comme ça qu'on a tendance à les voir. Il faut aussi mettre ces diagnostics à l'épreuve, d'où mes questions. Et donc, dans un premier temps, je pense qu'il est important de revenir sur ces idéologies et sur leur histoire afin de bien savoir, de bien voir de quoi on parle. De tous ces concepts, le plus banal, évidemment, c'est le concept de métissage. certains le considèrent, c'est une vieille histoire, notamment en France, certains considèrent ce concept de métissage comme le meilleur moyen d'éradiquer le racisme, puisqu'il permettrait d'effacer les races. Et d'autres, comme par exemple l'auteur de la tuerie négrophobe de Buffalo, Peyton Gendron, considère le métissage explicitement dans le manifeste qu'il a rédigé pour revendiquer son attaque terroriste et négrophobe, considère le métissage comme un symptôme du génocide des Blancs, le fameux grand remplacement dont il parle, qui éliminerait la population blanche au profit notamment de la population noire. Donc, que signifie ce métissage? Parce qu'on voit bien que dans l'espace politique qui nous intéresse, qui nous importe, l'espace politique négrophobe ou anti-négrophobe, il a des significations très, très diverses, ce métissage. D'où vient-il? Quel est son sens dans l'histoire des populations noires?
Pour moi, c'est un terme qui est né dans l'expérience coloniale. Et au niveau de l'étymologie, c'est un terme qui est directement issu, comme la majorité des termes raciaux, du vocabulaire zoologique ou botanique. Et le terme métis en particulier, en fait, à vrai dire, n'a rien à voir avec l'Afrique ou l'africanité. À l'origine, la figure du métis, le métis, c'est l'enfant issu du viol colonial de la femme indigène. C'est un terme, en fait, qui est venu à s'appliquer aux populations noires assez tardivement, hein, donc au courant du XXe siècle, mais qui, en fait, avec lequel on a, pour moi, peu de liens, en fait, en dehors.
Ça veut dire qu'au départ, il était appliqué plutôt aux Amérindiens, c'est ça ?
Aux enfants issus d'unions consenties ou non, et plus souvent pas consenties, mais en tout cas de la consommation sexuelle des femmes indigènes. Et du coup, le fruit de cette union-là, c'est le métis.
Et d'accord.
Cette catégorie-là, en tout cas, elle est liée à cette histoire particulière de la découverte par les Européens, de la redécouverte par les Européens du continent américain et de la violence guerrière et sexuelle qu'elle a engendré, en fait.
Si je peux rajouter quelque chose à ça, peut-être une dimension gouvernement des races. Justement, je trouve ça intéressant que tu fasses référence à Gendron, là, Peyton Gendron, le tueur à Buffalo, parce que quelque part, il y a presque le retour du boomerang, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on retourne un peu au point de départ avec comment cette concept est engendré, c'est-à-dire qu'il est aussi engendré en raison de cette peur que représentent les dits métis, donc ces enfants qui sont issus des soi-disant unions interraciales, la peur face à la menace qu'ils représentent en termes de dégénérescence de la race blanche, en termes de grands remplacements, en termes de désordre, en fait, que ça pourrait représenter pour la suprématie blanche. Et donc, ce concept, quelque part, j'ai envie de dire que Gendron, ben, il a raison, parce que cette menace, elle est présente, sauf qu'il se trompe dans le sens où le concept, précisément, il est construit comme une arme par le pouvoir blanc pour contrôler et gérer la hiérarchie raciale, quoi. Pour juguler, rendre impossible cette promiscuité entre colonisés et colons, et donc créer une catégorie intermédiaire qui va pouvoir être contrôlée par des formes d'assimilation et donc marquer une opposition à la masse noire, et donc faire rempart, quoi, en fait. Donc voilà, je trouve ça.
Une sorte de tampon.
Ouais. Ouais, un vrai tampon, un vrai rempart et une variable d'ajustement qui permet de mobiliser un groupe en l'assimilant contre son groupe, quoi, contre ses propres ascendances et donc de l'utiliser comme moyen de stabilisation des frontières de la race.
Tu dis son groupe, mais il est censé être issu de deux groupes, quoi. Est-ce qu'il est issu des deux groupes? Est-ce que tu considères qu'il est issu des deux groupes à parts égales, puisque c'est le produit de l'union du colon et du colonisé?
Ouais, ouais, c'est vraiment la question du statut, hein, en fait, qui compte. La production d'un statut, ou ça dépend des contextes. Je sais pas comment chacun peut venir un peu avec les contextes que chacun connaît le mieux, parce que c'est très variable, en fait, en fonction des contextes coloniaux.
C'est sûr, mais en fait, l'idée de métissage, elle est quand même liée à l'idée aussi de race et au danger de la dégénérescence raciale, en fait. Donc, c'est-à-dire que la blanchité, en fait, l'état d'être blanc, c'est aussi défini dans un monde qui, par définition, était plein de mouvements et de peuples qui se croisent. En fait, la pureté raciale, c'est quelque chose qui est né, en fait, dans l'expérience coloniale, dans l'expérience de la suprématie blanche, et qui a vocation à être préservé. Après, dire ça, ça ne veut pas dire qu'en soi, la catégorie de métis est un danger absolu pour la blancheur. L'idée d'un métissage généralisé est plutôt phobique pour les Blancs, parce qu'elle veut dire que la race en tant que telle cesse d'exister. Donc il y a des mécanismes de défense qui sont faits par rapport à ça. Mais la conquête du ventre des femmes colonisées et de leur corps fait aussi partie, en fait, de l'imaginaire colonial, fait aussi partie de l'objectif, en fait, de la manifestation, en fait, du pouvoir colonial. Donc il ne faut pas forcément penser le métis simplement comme une espèce de déstabilisation de la blancheur. Non, en fait, il est aussi un symbole, une manifestation, une incarnation de son pouvoir politique qui lui donne accès, en fait, à la jouissance sexuelle des corps des femmes colonisées. Donc je pense qu'il faut... Il faut voir que la question coloniale, la question de la race, c'est des questions complexes qui peuvent incorporer des dynamiques qui ont l'air contradictoires, mais qui ne le sont pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu de préservation de la race pour tout ce qui est transmission de patrimoine, pérennité culturelle et politique, et en même temps, le métissage qui vient intervenir comme la manifestation d'une jouissance, d'un pouvoir sur le monde, d'un pouvoir de pouvoir changer effectivement les caractéristiques de peuples qu'on domine, en les blanchissant, en les éclaircissant. Donc c'est à la fois, c'est les deux, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas réduire la question du métissage à une espèce de...
Non.
De désordre racial.
Les extrémistes de droite, pour eux, c'est un danger, parce qu'ils savent que les Blancs sont moins nombreux sur Terre et ont peur de disparaître physiquement.
Oui.
Donc, il y a aussi un autre côté de reconfiguration de la blanchité. C'est un espèce de tous métis pour faire en sorte en surface... De loin, on a gardé tous les problèmes de race, en fait.
Ouais.
Il y a les deux.
Le truc, c'est que cette peur-là d'extrême droite, elle est née dans l'implantation. C'est-à-dire que la situation de minorité des Blancs dans les colonies, elle est effective. Les Blancs dans les colonies africaines, caribéennes, sont vraiment en grande minorité. Donc l'enjeu pour eux de la préservation de la race, il se fait dans un contexte où démographiquement, ils sont faibles et qu'il y a un enjeu de transmission de conservation du pouvoir.
Mais moi, ce que je voulais dire, pour revenir, parce qu'en effet, ça semble contradictoire et ça ne l'est pas, mais là où je pense que c'est important de voir la menace fantasmée par le pouvoir blanc, même si, à mon avis, il y a aussi plein d'autres problèmes très stricts, juridiques, entre quel statut on va lui donner. L'importance, quand même, de revenir sur ce fantasme, c'est que c'est un vrai problème qui préoccupe l'ordre colonial. Et donc, il faut répondre à tout prix à ce problème. Et pour répondre à ce problème, on crée cette catégorie qui produit cette illusion d'un être entre deux races. Alors que, à part quelque chose de racial, je veux dire, ça n'a aucune rationalité. Je veux dire, c'est un être composé de...
C'est une manifestation du système raciste.
Voilà, c'est ça. Et donc,
c'est pas quelque chose qui s'en extrait.
Voilà, c'est ça. Et donc, sans cette peur, sans ce besoin de gestion, de contrôle, ce fantasme racial de dégénérescence, en fait, sans ce problème politique, cette catégorie, elle n'existe pas. Et on n'en hérite pas de la même manière,
bien
quoi.
Sûr.
Et donc on hérite d'un problème d'une identité qui est qui est constituée d'un problème politique pour les Blancs, et puis comme tu dis, enfin comme vous dites, qui est aussi à l'avantage d'une idéologie de pouvoir s'approprier des corps.
Après au contexte plantationnaire, ça a été réglé très vite, c'est-à-dire que les femmes blanches de la société plantationnaire sont astreintes à une stricte homogamie raciale. Elles ne peuvent pas. Il n'y a pas de cas dans l'histoire. Il y a très peu de cas de femmes blanches qui donnent naissance sans avortement, sans mort, sans assassinat à naissance, à des hommes noirs, en fait, ou à des enfants noirs en général. La constante, c'est les femmes garantes de la
la reproduction de
l'hermétisme racial, c'est-à-dire vraiment de la,
la, la, la reproduction de la race blanche.
C'est ça, en fait, la reproduction de la race blanche, la barrière raciale se situe au niveau du ventre des femmes blanches. Et ensuite, l'homme blanc, lui, parce qu'il a ce privilège de jouissance
qui lui confère
la situation coloniale et esclavagiste, lui, par contre, va disséminer sa graine. Mais cette graine-là, quand elle émerge, elle est certes libérée, donc très vite, en fait, pour préserver un sens d'humanité, on va sortir les enfants de ces unions-là de l'esclavage, mais pour autant, pour pas avoir de problème de transmission, pour pas que, le droit de propriété finisse dans les mains des nègres, les mulâtres n'ont pas le droit à la propriété terrienne foncière. Oui. Et donc, il y a quand même très vite dans le système colonial des barrières qui sont mises en place pour que les questions de transmission, de filiation et de conservation du pouvoir racial soient complètement évacuées quand il s'agit des métis. Mm-hmm. Ça, c'est très tôt, en fait. Mm-hmm.
La question noire.
Le podcast.
Patwa ek agre, Amazon avasi kola se en kalte jibye. Ou pasa hen ne poit kote nou ni bie kalte, se pa so sav nou mouve. Saint Lisi se maman nou, nou ni sa ansan nou. Kon me di fe wan kalte manje, I kapot bi ban nou. Se yon, no matter the color of skin nou. Pe blan kon fawi, no jom kon mata win. A resilient nation, we can live, we willing, keep flowing. Mem kon yo de epi wavin nou, wet pase fi get fi dashin. Le nou vin ansam nou, pli fon pase machin.
Oui, après, ça dépend des situations, parce que quand on voit l'histoire du Portugal à l'île São Tomé, c'est tout à fait différent, dans le sens où ils ont réalisé que la figure du métissé pouvait vraiment être utilisée comme une arme. Donc du coup, ces enfants, ces adultes, ont commencé à avoir un statut, entre guillemets, presque comme un statut de colon, dans le sens où même s'ils n'étaient pas... égaux par rapport à leurs frères ou à leurs sœurs ou à leur père, du coup, ils pouvaient avoir des terres, ils pouvaient avoir des arbres, ils pouvaient avoir aussi des esclaves, parce que comme ils étaient, ils avaient une mère noire, ils connaissaient du coup le vécu des esclaves dans la plantation et c'était un peu l'ennemi intérieur. Et ils ont été utilisés de cette manière. Jusqu'aujourd'hui, l'ennemi intérieur.
Pour les
Noirs, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est. Enfin, imagine une situation où tu dois, entre guillemets, dénoncer, du coup, ton oncle, ton cousin, les gens aussi de ta famille.
Bien sûr.
Et ça, c'était un moyen d'éviter les révoltes. Parce qu'on avait énormément. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui a été après.
Ouais.
Repris par d'autres colonies, en fait.
Oui,
c'est-à-dire qu'on donne ce statut aux métis, cette espèce d'entre-deux, mais qui va servir, comment dire,
les
intérêts blancs.
Oui, oui.
Je trouve que intéressant à cet égard, c'est celui de Haïti, enfin Saint-Domingue à l'époque, puisque c'est vraiment ce qui est... C'est quasiment une classe, quoi. C'est comme vous le disiez, qui est une classe intermédiaire, celle des métis ou des gens de couleur, des noirs libres. Enfin, ils avaient beaucoup de noms. Ils n'étaient pas forcément biologiquement métis, même si c'était quand même le gros des troupes, si je puis dire. Ceux qui n'étaient pas vraiment blancs, ceux qui n'étaient pas purement blancs, mais qui jouissaient des droits, de ces droits à posséder des esclaves, etc. etc. Qui ont été, utilisé pour renforcer un petit peu le contingent blanc, en tout cas qui pouvait avoir ce statut quasi colon et qui était l'avant-garde, en tout cas l'architecture, ce qui soutenait le système des plantations, le système esclavagiste, et qu'à un moment donné, disons le génie de la révolution haïtienne, ça a été finalement de les retourner et d'en faire des nègres. D'en faire des soldats qui allaient combattre aux côtés de Toussaint Louverture, puis aux côtés de Dessalines, d'en faire des gens qui revendiquaient de la part noire d'eux-mêmes, au point que, comment dire, c'est juste une anecdote, mais elle a sa poésie. Ils combattaient sous drapeau français pendant longtemps, les soldats haïtiens, y compris quand ils combattaient pour la France. Ils se sont rendus compte de l'absurdité de la chose. Alors Dessalines a décidé d'enlever le blanc du drapeau. Tout le drapeau haïtien avec... ils ont changé le sens, évidemment, pour que ce soit un petit peu plus large. Une bande blanche retirée, une bande rouge et une bande bleue. Et Dessalines, dans son discours, il présente le drapeau à son contingent. Il dit que le bleu représente les noirs et le rouge représente les gens de couleur, les métis. C'est ça que va devenir le drapeau haïtien. Et le blanc a été expulsé du drapeau avant d'être expulsé de l'île. Et c'est d'une certaine façon la seule révolution anti-esclavagiste réussie de l'ère moderne provient de cette espèce d'alliance au départ, inenvisagée, inenvisageable pour les colons entre les noirs et esclaves et les métis, c'est-à-dire les personnes de couleur libre. Ça illustre bien, je trouve, cette ambivalence, si vous voulez, ce basculement à un moment donné qui s'est passé en Haïti et qui ne s'est pas vraiment passé ailleurs. Illustre bien, comment dire, le rôle de pivot, le rôle clé que les métis ont dans cette histoire, au fond.
Oui. Moi, je pense que c'est vraiment les questions qu'on doit aborder sur la posture politique de cette catégorie. Mais juste pour revenir un peu avant... pour peut-être apporter aussi un élément sur, par rapport à ce que tu disais aussi par rapport au Portugal et la puissance en fait, du pouvoir colonial qu'il exerce grâce à cette idéologie du métissage. Ça se traduit très très bien en fait, avec la colonisation portugaise parce que c'est un peuple qui considère que finalement il est en adéquation avec les territoires qu'il colonise. Il pense vraiment qu'il a une supériorité sur le reste de l'Europe et que ce n'est pas seulement pour des raisons de pouvoir économique, politique et autres qu'il est chez lui. Je veux dire, comme l'Empire est chez lui partout, il est aussi chez lui, le Portugais, pour des raisons culturelles et de plasticité de son identité tropicale qui fait que être au Portugal, être en Angola, être au Brésil... c'est sa terre, quoi. Il y a presque la construction d'un rapport d'authenticité avec ses colonies. Et donc, les Portugais vont favoriser le métissage de manière très, 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 très forte, quoi, très appuyée. Et en effet, quand il y a une telle affinité avec le pouvoir dans cette idéologie du métissage, ben, c'est des rapports de loyauté à la blanchité qui sont... qui sont très durs, quoi, à démanteler. Donc, je parle des Portugais pour peut-être rapporter un élément à ce métissage comme outil, même si après, je pense que les questions qui nous occupent, qui sont les plus importantes, sont politiques, et justement, comment faire cette bascule, quoi. Opérer cette bascule dont tu parles pour Haïti.
Après, je pense qu'il faut souligner un truc comme on en est à la définition, c'est qu'il y a une énorme différence entre... Bon, là, depuis tard, ce dont on parle, on ne parle pas de métisme, on parle de mulâtre. Il y a une énorme différence entre le mulâtre et la façon dont métis est entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, métis, c'est un mot qui est détaché de son histoire, donc qu'on ne rapporte pas spontanément à l'esclavagisme, qu'on ne rapporte pas spontanément aux massacres coloniaux, qu'on ne rapporte pas à la domination coloniale. C'est quelque chose qui aussi est vu juste comme l'expression du mélange de façon abstraite. Donc, on va parler de métissage culturel, alors que le métissage, c'est une notion raciale, c'est pas une notion culturelle. Donc, quand en fait on l'élargit comme ça à ce point-là, quand on le retire de son histoire, il y a aussi un danger de perdre, en fait, de perdre de vue, en fait. Ce à quoi c'est rattaché, et en vrai, les sous-entendus, en fait, à ce de quoi le mot est chargé. Mm-hmm. et en quoi, en fait, il symbolise ou il a toujours été un outil de domination, en fait, coloniale. Ouais. Donc, le fait que ça se répande comme ça, c'est absolument pas innocent. Ouais. Et en même temps, c'est utilisé de façon très triviale.
Ouais, tout à fait.
Et
ouais,
les gens perdent de vue, en fait, de quoi on parle.
Ouais, c'est pour ça que Jean Andron a peur du métissage. Il se rend pas compte, en fait, c'est un outil qui le sert, quoi. C'est tranquille, en fait.
Et c'est intéressant parce que, du coup, comment même penser le métissage comme une contradiction de la race? Or, le métissage ne peut pas exister sans système racial strict. La notion même de métissage est consubstantielle de la notion de race. C'est une catégorie raciale. Donc, comment même penser ça comme une antithèse, en fait? Ça n'existe pas, le métissage, en dehors de la catégorie raciale.
La question que je me pose, mais c'est... comment dire, si ce concept de métissage a perdu, comment dire, a perdu tout son sens, d'une certaine façon, dans la manière dont on l'utilise, on pourrait se dire que, bon, bah, ma foi... C'est juste un mot, quoi. Ce n'est plus qu'un mot. Désigne quelque chose de différent. La question que je me pose, c'est... parce que si c'est juste ça, je veux dire, si ça désigne juste le mélange, bon, le terme est devenu innocent, alors il n'a plus le... Comment dire, la nocivité qu'il a pu avoir dans l'histoire qu'on vient de rappeler. Le problème, c'est que j'ai l'impression que même s'il a changé de sens, apparemment, il sert d'une certaine façon toujours à la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il sert toujours à... D'une manière à créer... des groupes de population ou une idéologie au moins de personnes qui se reconnaissent là-dedans et qui vont avoir une certaine hostilité au monde noir, aux personnes noires, à la question noire en général. C'est l'impression que j'ai. Mais juste, voilà, pour répondre rapidement, parce que c'est peut-être une question un petit peu trop abstraite, mais est-ce que vous pensez que le terme est juste devenu un simple mot, qu'il a perdu vraiment cette dimension comment dire, instrumentale et raciale qu'il avait, et donc qu'il est devenu inoffensif, ou bien qu'il a toujours, même s'il a changé un petit peu de sens, il a toujours la même nocivité, la même négrophobie sous-jacente.
Ouais, je prends le cas de l'Hexagone. Il y a une politique d'incitation des Noirs au métissage qui est pas dite, mais qui est fortement suggérée dans les séries, la pop culture, même partout. Même, je sais que dans l'éducation nationale, les profs ont tendance à dire aux Noirs qui traînent avec des Blancs, qui sont ouverts d'esprit, qui ne sont pas comme les autres, qui sont évolués. Et aussi ça, aussi toute cette injonction, quand tu es un enfant noir dans une école, qui te fait comprendre que traîner avec des Blancs, c'est mieux. C'est que tu es un Noir évolué, tu es moderne, tu es ouvert. Donc, c'est aussi une fonction... c'est pas dit, c'est implicite. Implicite du métissage, en fait.
Ouais, parce que je travaillais contre la cohésion des Noirs, quoi, en gros.
Oui, pour faire croire que le salut des Noirs, c'est hors de sa communauté. Mm-hmm. C'est aussi, ça matche très bien avec la politique d'assimilation à la française. Là, je parle vraiment de l'Hexagone.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est justement qu'en fait, quand on parle de métissage, en fait, généralement, quand cette discussion émerge, elle émerge souvent du point de vue des concernés qui vont faire le récit de leur expérience personnelle, des multiples expériences de rejet supposé dans certaines situations. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le discours sur le métissage, lui, est adressé aux personnes, en majorité en fait, aux personnes noires. Et donc, du coup, il y a tout cet enjeu-là, justement, de faire la preuve de son intégration par son choix amoureux, par la façon dont on se reproduit. C'est vraiment que même dans son cercle social, c'est-à-dire il y a vraiment, moi je suis d'accord avec toi, il y a vraiment une pression en France à évaluer le degré d'intégration en fait à ses choix sociaux en fait, et à son entourage.
Ouais. Ouais, moi, pour aller dans le même sens, peut-être pas sur le terme exactement, mais sur la catégorie des prétendus métis, parce que c'est quand même des figures. Fantasmées, quoi. Enfin, on biologise totalement la catégorie du métis en oubliant que c'est d'abord une catégorie politique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de critères de vérité sur qui est métis, quoi. À moins de penser vraiment à la pureté de l'homme noir et de la femme blanche. Donc, c'est toujours des constructions raciales fantasmées. Mais voilà, les dits métis, les supposés métis, quand ils sont intégrés au système de classe et de race, c'est clair que même si c'est sans le dire, ils vont servir d'exemplarité pour faire passer la question de l'antiracisme comme une question de population à assimiler, hein, de faire passer la noirceur comme un objet assimilable et de faire de cette figure intégrée un objet d'exemplarité qui lui va jouer le rôle ou pas le rôle, enfin je veux dire qui va endosser la fonction ou refuser d'endosser la fonction de se distinguer de la masse noire, quoi. Donc c'est vraiment une figure, si c'est pas dans les termes, mais c'est quand même souvent de toute façon implicite, quoi. C'est de toute façon implicite qu'il y a là quelque chose d'assimilable et que c'est positif en termes de ce que ça dit, de ce qu'il faut être.
La question noire. Le podcast.
Shorty, you pressure, you know I'm packing pipe. Send me the ledger, what you fucking with tonight? I'm from the town, baby, yeah, we outside. Might fly like kite, but if it's a problem, we gon' fight. Champions when I step, so you know my stunts. RK on my body, you know that's brand. Private flights to the nature island, I got blunts. No holding hands, smoking on the beach, getting tan. I'm for real. I ain't that niggas that you be carving for weeks. I could play dirty, but tonight I'm a bill. Call 6:30, let me show you the drill. Baby, please don't take me for no sassy. Young rich nigga, but I'm from the trenches. If you talking money, I got shashy. But you gotta show me that you gang gang.
Si personne n'a d'objection, j'aimerais peut-être qu'on s'achemine vers le deuxième moment de nos définitions, c'est-à-dire la question de la créolité et du concept de créole, puisqu'il a une certaine actualité. Il a été utilisé récemment par un candidat à l'élection présidentielle, mais peut-être on reviendra plutôt là-dessus un petit peu plus tard. Concentrons-nous sur l'histoire du concept de créole, du concept de créolité, du concept de créolisation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ce terme étrange qui nous renvoie lui aussi, comme le précédent, au contexte un petit peu matriciel des Antilles et de la Caraïbe en général?
Il y a une différence à faire, il y a deux définitions à donner, parce qu'il y a en fait le créole et le créolisé. Et donc, le créole, en soi, c'est le colon qui est acclimaté à son milieu esclavagiste. Donc, c'est le nom qu'on a très tôt donné aux colons du Portugal, de l'Espagne et puis de la France, quand ils retournaient dans leur métropole respective. Leur acclimatation au temps et à l'environnement naturel, mais aussi social, économique de la plantation et de la colonie, faisait d'eux des créoles.
Ils avaient développé une culture spécifique, c'est ça. Ils étaient plus des Français exactement comme ceux de la métropole.
Ils faisaient partie. Ou en tout cas, ils étaient l'expression exotique, lointaine du pouvoir impérial. En soi, ils l'incarnaient. Donc c'est vraiment un mot créole, à la base, qui ne se rattache absolument pas au métissage, mais vraiment plutôt à la domination blanche en terre étrangère. Le créolisé, lui, c'est l'esclave acclimaté à sa condition servile. Donc qui a traversé le processus de désocialisation et d'acculturation en quoi consiste la période de transition entre la sortie de cale et l'état de conscience altéré de l'esclave en servitude. Donc c'est vraiment deux choses différentes qu'on finit par se confondre dans le vocabulaire commun, mais qui sont deux processus différents. L'un, c'est vraiment un processus de domestication, d'acculturation de l'esclave, et l'autre, c'est une
la créolisation,
voilà la créolisation. Et l'autre, le fait d'être créole, c'est une position sociale dominante et coloniale. Et je pense que ça, c'est une dissociation qu'il faut pouvoir rappeler quand on parle de Krull, parce qu'on parle de deux choses différentes. Et c'est ce qui fait qu'on a des avis différents là-dessus. Pour un nègre créole, historiquement, voilà, c'est un nègre qui soit est né dans les colonies, soit a traversé ce processus de créolisation. Un nègre bossal, qui est un mot qu'on oublie souvent, mais c'est le nègre sorti des cadres. C'est le nègre sorti de Guinée, qui a encore en lui une très forte réticence au système colonial esclavagiste, et une très forte
idée de capture, quoi, celui qui,
une identité culturelle qui est effacée en fait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on rattache ce terme à des productions créatives ou matérielles, ou ici je pense à la langue créole, contrairement au métissage, enfin, à l'idée de mélange, de métissage qui est de toute façon une assimilation par le haut, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de production qui viennent de
la plantation.
Oui, mais pas que de la plantation, qui viennent aussi de la nécessité de la survie et de produire quelque chose qui est nouveau, quoi. Ou en tout cas qui n'est pas totalement nouveau, mais qui est produit pour, qui n'est pas produit à partir d'une injonction d'assimilation, mais qui est produit à partir des ressources trouvées dans dans les trajectoires de fugitifs. Mais je pense qu'il y a de fait la romantisation, la politisation qui est faite à partir de là, et qu'il y a une très grande vigilance à avoir pour pas penser qu'on est là dans des identités qui ne sont pas violentées, mais qui sont souhaitées, désirées par tout un chacun, mais que quand même, à un moment donné, des esclaves ou des Africains décolonisés se sont retrouvés pris dans des contraintes très fortes. Et là, je pense à la langue créole, avec l'interdiction de parler français, mais aussi l'interdiction d'utiliser les langues natales. Et donc, dans ces contraintes fortes, la nécessité de survivre et donc de produire quelque chose, quoi, mais qui naît évidemment dans la violence. Après, je parle pas de comment c'est réapproprié politiquement.
Non, je parle pas ça. C'est juste qu'histoire. En fait, créole, ça veut dire issu du contexte esclavagiste.
Ouais, mais il y a des
c'est
productions.
Ça que ça veut dire.
Oui, d'accord, mais je pense que ça parle aussi.
Il y a des choses qui se passent. Il y a des danses de... qui naissent. Il y a des langues qui naissent.
Oui.
Mais je pense qu'il y a cette ambivalence.
Oui, mais d'accord. Mais si on va sur ce qu'est la production en question et qu'on essaie de la qualifier par rapport à des processus d'imposition, d'assimilation. Ou de perte, voilà, c'est quoi qui naît, quoi, et que peut-être ça c'est intéressant de pouvoir le qualifier dans la question de qu'est-ce que ça.
Moi, c'est des produits des résistances africaines.
Des politiques de résistance produisent des choses, quoi, en fait.
Mais moi, c'est africain. C'est le produit de la résistance africaine.
Exactement.
Ok.
Je pense pas qu'il fallait le qualifier de créole.
Parce qu'en fait, j'entends.
Créole, c'est pas ça. Vraiment. Créole, ouais. C'est vraiment une idée d'une création, de quelque chose qui naît de la domination,
ouais.
En fait.
Ouais.
Et là, c'est ce que tu dis, c'est né de la résistance,
ouais,
culturelle.
Ouais.
Et du coup, je sais pas si le terme créole, okay, est approprié.
Ok, c'est ça, j'entends.
Mais ouais. je pense que, si je puis me permettre, y a cette ambiguïté, et c'est certainement sur cette ambiguïté que, puisque Véronique parlait aussi de ça, les productions culturelles qui en sont nées, c'est-à-dire que toute la production récente, ce dont je parlais en introduction, toute la production culturelle, enfin, pas toute, mais quand même une grande partie de ce qui a du succès, de ce qui est influent, de ce qui importe, et bon, qui n'est évidemment pas dénué de talent, mais toute la génération d'écrivains martiniquais qui vient après Césaire et qui essaie de se débarrasser de Césaire, les glissants, les chamoiseaux, etc., tous ceux qui ont élaboré Bernabé, pardon, qui ont essayé de déployer ces concepts de créolité, de créolisation, etc. Il y a évidemment cette ambiguïté, parce que le problème, c'est que créole, évidemment, c'est ce que tu dis qu'aussi, c'est-à-dire cette espèce d'atroce position du potentat colonial, finalement, du potentat plantationnaire, et en même temps, c'est le nom de la langue. Et ça, on peut malgré. Voilà, on peut. Et c'est surtout sur, comment dire, l'histoire de la langue qu'ils ont étendue, que ces écrivains, que ces auteurs ont étendue, que ces poètes ont étendue, une espèce de paradigme culturel qui joue. Et on ne peut pas s'empêcher, je pense que c'est ça aussi, en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète ce que vient de dire Véronique, c'est-à-dire c'est le nom du colon, c'est le nom de cette violence, et en même temps, on ne peut pas sortir du fait que c'est aussi le nom de la langue. Et cette langue, c'est des, voilà, tout le monde trouve ça, comment dire, tellement inventif, tellement beau, etc., le créole, qu'on essaye d'en faire quelque chose dans la culture. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'il joue beaucoup sur cette espèce d'ambivalence et d'ambiguïté, que ce n'est pas seulement le nom du colon, mais c'est aussi le nom de cette culture-là, qui est plus, comment dire, le produit des esclaves et des descendants d'esclaves que des colons. Et donc le problème, je pense, c'est qu'est-ce qui en est fait, encore une fois, exactement comme la question des métis, qu'est-ce qui en est fait ? Est-ce que c'est plutôt un outil, comment dire, de libération, ou est-ce que c'est plutôt un outil d'endormissement, de violence, de domination ?
C'est pour ça qu'il y a des activistes martiniquais et guadeloupéens qui refusent que leur langue soit appelée créole. Ils appellent ça le cas martiniquais et le cas guadeloupéen pour faire la distinction entre les résistances africaines, les déportés africains et à la bouillie produite par les colons et par la France.
Sachant que c'est les deux, Norman. C'est-à-dire que c'est à la fois la langue de la plantation, c'est-à-dire que les contremaîtres, même le maître, savent les bases de la syntaxe et du vocabulaire assez pour pouvoir donner des ordres et ordonner la plantation. Faut pas se dire que c'est juste soit l'un soit l'autre. Le truc, c'est que la langue, c'est un espace dynamique au sein duquel les résistances peuvent s'exprimer autant que la domination. Donc c'est vrai que, par exemple, les modifications qui ont été apportées dans la langue par l'arrivée de travailleurs Congo, les usages linguistiques qui ont été créés dans les mornes, dans les communautés nées après l'esclavage, des esclaves qui ont fui les plantations pour s'établir de façon autonome dans les mornes, les usages de langage qui sont là sont issus de la culture africaine, ne sont pas issus de la plantation. Donc au sein même de la langue, en fait, il y a des choses qui sont nées, qui ont trait beaucoup plus à la résistance culturelle, au marronnage littéral et social après en contexte esclavagiste, plus qu'en fait qu'à la domination. Mais ces deux choses-là, en fait, font partie de l'histoire de cette langue-là. Et c'est un enjeu, en fait, justement, de savoir si on se définit par rapport à la culture de la plantation, la culture du bourg, la culture du métissage, ou par rapport, justement, à la culture des nègres bossales, à la culture des mornes, à la culture des nègres qui ont décidé de s'inscrire en faux par rapport à la cité coloniale, de s'en extraire totalement. Et ça, c'est ces deux foyers civilisationnels distincts qui sont en conflit dans l'espace dit créole, et que depuis la France, on ne perçoit pas, ou même depuis le reste de la diaspora, on ne perçoit pas.
Mais en tout cas, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a ses positions sur la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat un peu qu'il a eu avec Éric Zemmour, où en tant qu'universaliste, il faisait vraiment l'apologie de la créolisation. Et c'était beaucoup glissant.
Bien sûr.
Alors, moi, je veux juste citer ce qu'il dit à un moment à Éric Zemmour. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, parce que du coup, Zemmour, il est anticommunautariste et tout, contrairement à ce que vous dites, ça a créé une communauté commune sous l'empire de la loi. Voilà, communauté commune.
Ce qui c'est même pas des choses que les gens qui ont écrit la cruauté disent, en fait. Même Glissant ne dit pas ça, en fait. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est une négation, en fait, de la façon dont s'organise la société coloniale en Martinique et en Guadeloupe. Norman, tu connais un peu Glissant ? Tu peux expliquer juste d'où est né le mouvement littéraire qui s'appelle créole ? Parce qu'en fait, là, on parle de deux choses différentes. Nous, on définissait le terme. Mais ce qui fait que le terme est à la mode aujourd'hui, c'est quand même issu du mouvement littéraire et philosophique.
C'est vrai.
Antillais.
Bon, Glissant, c'est un écrivain martiniquais, un écrivain martiniquais qui était aussi un théoricien. Il a enseigné, je pense, à New York University. Il est l'auteur de beaucoup de livres, de recueils de poésie, mais aussi d'un très gros roman. Qui s'appelle Le Tout Monde, que je trouve à peu près illisible, mais enfin bon, je suis pas un très grand esthète, hein, c'est pas parce que j'arrive pas à lire que c'est nul. Il paraît que c'est formidable, mais voilà, moi, j'arrive pas à comprendre. En revanche, ces textes théoriques sont intéressants. Et il a développé ce concept de créolisation pour désigner, en gros, le processus par lequel se créent des cultures issues de l'extrême violence, même s'il suppose, il présuppose que ça peut arriver sans le processus d'extrême violence, mais il n'explique jamais comment ni pourquoi. En tout cas, à la base, c'est pour montrer un petit peu, même si j'aime pas ce terme, la résilience des formations culturelles, en gros. Et pour montrer comment, à partir évidemment de l'exemple martiniquais, de l'exemple entier en général, comment des cultures communes, non pas sous l'empire de la loi, précisément comme pour citer Mélenchon, qui a été suggéré par Siquet, mais à partir de leur présence, de leur coprésence, de la manière dont leurs cultures se mélangent et sont en contact les unes des autres, comment il est possible de créer une société sur des bases nouvelles, et surtout des sociétés sur des bases relationnelles. Le problème étant que, à mon avis, c'est très intéressant, quoi. C'est un beau concept, c'est très élégant. Enfin, je ne lui rends pas justice là, dans les éléments que je donne. Il écrit des gros bouquins là-dessus qui sont, comment dire, assez intrigants, etc. Je ne lui rends pas vraiment justice, mais le problème, c'est qu'il y a ce mythe selon lequel, enfin, tout ça est fondé sur un mythe qui est fondamental, qui est le mythe de l'absence de rétention de quoi que ce soit des esclaves quand ils sortent du bateau.
Le mythe de l'esclave nu.
De l'esclave qui est qu'une espèce de page blanche culturelle, ou de tableau noir culturel en fonction de comment
ça se réinventer par le
martien.
Et ça, c'est un problème, évidemment. C'est un truc sur quoi, comment dire, les afrocentristes antillais se sont battus en analysant la langue créole, en voyant ses sources, etc. C'est une affaire qui est, comment dire, qui est assez débattue. Et je pense qu'on peut dire de manière, comment dire, sans beaucoup de doute, que les fondements de la théorie du glissant sont faux. Qu'il n'y a pas de rétention de la mémoire africaine chez les populations qui sont là. Il est faux que la créolisation peut advenir hors d'un contexte génocidaire, hors d'un contexte d'extrême violence, etc., comme il le dit parfois. Je pense que c'est faux. Je pense que la créolisation arrive nécessairement sur un génocide, nécessairement, comment dire, à partir de populations différentes qui ont gardé des éléments culturels forts de là d'où elles proviennent, et que c'est ça qui les aide, d'une certaine façon, à amener quelque chose sur la table, quoi. Ils n'ont pas juste pris un peu de culture française à partir de rien du tout. Ça n'a pas de sens de croire ça. Donc je pense que il y a beaucoup de choses fausses chez Glissant, enfin factuellement, matériellement fausses, mais en même temps, les constats qu'il fait sur son inventivité culturelle, les constats qu'il fait sur la capacité du créole d'une certaine façon, de cette culture créole à amalgamer et, comment dire, des tendances probablement à avoir une capacité, comment dire, d'adaptativité culturelle plus grande, ça me semble indéniable. Mais donc voilà, je pense qu'il faut faire un bilan contrasté de l'œuvre de Glissant et de la manière dont il a théorisé son concept de créolisation. Je ne pense pas qu'il faille vraiment complètement le jeter aux ordures ou quoi que ce soit, en faire une espèce de procès totalement radical comme je le vois parfois. Ça a quand même des mérites, mais je pense que ses limites ne sont pas assez souvent rapportées. Juste pour terminer, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est de voir à quel point ça a du succès à la Sorbonne, cette affaire. Mmh. À quel point, en France, notamment à Paris, comment dire, dans des domaines comme la littérature, etc., on se gargarise de cela, on fait colloque après colloque, publication après publication, sur la créolisation et sur à quel point... ça devient une affaire qui concerne les Français de Paris, quoi.
Oui.
C'est la créolisation parisienne. Ça n'a strictement plus aucun sens, et c'est devenu juste une manière, un outil pour qu'on voit, comment dire, des Blancs qui gravitent autour de la place du Panthéon toute leur vie, qui viennent et qui se disent créoles parce qu'ils ont lu le discours entier de Glissant.
Ils reconnaissent la part
écrite en eux.
Mais oui, mais c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, ils reconnaissent la part écrite en eux. C'est vraiment ça, ça crée une nouvelle version de l'universalité, mais dans le mélange. Et donc, qui donne accès à une position blanche, à tout, à travers la prétention de,
voilà,
de posséder une part de l'autre et que l'autre possède une part de... Voilà, c'est ce truc-là.
Qui évacue aussi toute la conflictualité.
Oui, parce que...
Qui est quand même le problème principal.
Oui, c'est sûr. Parce que,
la question raciale, c'est qu'il y a, ça crée un intérêt divergent, en fait.
Oui, oui. Que les positions ne sont pas nommées.
Là, on crée artificiellement des intérêts convergents.
Oui.
La question noire. Le podcast. On y
Olisha legba, titinjo, lovije, Olisha, adonu Olisha, legba siyale sambayo.
Olisha legba,
balabuyo.
Olisha legba, titinjo, lovije,
Olisha, papa,
Olisha, legba siyale
sambayo.
Un peu ça à Bruxelles parce que c'est une espèce d'enclave dans le pays. Il y a les Wallons avec un pouvoir fort, enfin moins fort maintenant, les Flamands avec un pouvoir fort, et puis Bruxelles, cette espèce de mélange. Et avec le Bruxellois qui est resté quand même actif jusqu'à au moins 20 ans, et il y a cette identité créole du Zinneke. Et donc, c'est le Bruxellois par excellence qui serait nourri de toutes les influences d'une ville cosmopolite. Ouais, quoi. Et alors, ils font des...
Sachant en plus que c'est un carrefour des denrées coloniales.
Oui,
Bruxelles.
Chocolat.
C'est comme ça qu'ils ont créé leur richesse, donc c'est intéressant.
Et donc, t'as un carnaval qui rend hommage aux Zinneke. Enfin, il y a vraiment un investissement. Mais en fait, et donc, c'est une notion qui est utilisée comme si tout le monde était à égalité par rapport à du pouvoir dans Bruxelles. On était tous concernés de la même manière par cette identité. Et en réalité, elle est hyper investie d'abord par les Flamands en termes de moyens qu'ils donnent pour le festival, de vitrines, d'aller chercher des groupes, de parler à leur place ou de les faire parler et tout. Et c'est un groupe qui a des velléités de domination sur Bruxelles et qui entre...
Un groupe de métis, du coup.
Non, des Flamands,
Flamands
blancs, mais d'accord. Qui sont très minoritaires en nombre, ils sont 2%.
D'accord.
Et donc, ils n'ont pas légitimité sur le territoire, et, à part qu'ils essayent par tous les moyens avec des institutions qu'ils installent, et ils entrent avec cette identité créole. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais, Norman, les altérités, elles sont très faibles, parce que des Maghrébins, on ne va pas prendre grand-chose, on prend le thé à la menthe.
Le couscous.
Ouais. Les Flamands sont devenus des créoles. Et ça les absout complètement de toutes ces velléités de pouvoir, complètement. Et dernièrement encore, il y a un chanteur flamand qui est mort, et c'est le cœur. Et tu sens que ça, c'est le créole avec ce fantasme d'un truc par le bas. On serait tous des minorités.
Mm-hmm. Tous des minorités,
on serait tous des minorités.
Un truc nouveau
oui.
Qui sort comme ça au hasard sans rapport de force.
Oui.
Mais après, pour revenir sur Mélenchon, en fait, c'est quand il a repris la créolisation, c'est juste par stratégie électorale.
Bien sûr.
Parce qu'il sait qu'il manque des voix, c'est dans les quartiers populaires non blancs. Et il ne veut pas aussi céder à l'antiracisme. En même temps, républicain à fond, et se montrer pro-noir ou pro-banlieue, alors que c'est rien du tout, en fait. C'est vraiment une stratégie électorale, c'est arithmétique. Hein.
Tu disais que c'est quelque chose de très prégnant à la Sorbonne.
Ouais.
Moi, je voulais juste nuancer ça en disant quand même que Édouard Glissant n'a pas pu faire carrière immédiatement en France, et qu'il s'est retrouvé contraint, comme beaucoup d'intellectuels noirs francophones, à faire carrière aux États-Unis, et que à partir de là, en fait, ces idées ont quand même essaimé dans un espace plus large que l'espace francophone, en particulier dans la Caraïbe, car une grosse partie de l'élite issue des castes dites mulâtres caribéennes vont se former, en fait. Les élites petites bourgeoises caribéennes vont se former aux États-Unis et elles sont revenues chez elles avec ce mythe de la créolité, de l'identité créole, et ça a complètement chamboulé, en fait, le récit identitaire. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait une forte conscience noire qui faisait écho à la conscience noire dans l'Amérique du Nord, mm-hmm. et une forte conscience africaine issue de la négritude. La créolité, comme mythe national, est venue en fait casser ça et a été portée par des élites qui sont, elles, en fait, concrètement métisses ou qui sont des classes où la multiculturalité est vécue, en fait. Le fait est que ça devient la devise nationale d'îles comme la Jamaïque ou Trinidad, qui sont quand même à une grande majorité issues d'Afrique, où l'Afrique devient minorisée, devient une petite composante dans l'identité nationale, parce que dans l'identité des dirigeants, c'est le cas. Parce que dans la classe dirigeante, il y a une très forte diversité entre les Syriens, les Indiens, les descendants de Blancs, les descendants de Métis, mais qui ne correspondent pas au gros de la population pauvre, qui est en écrasante majorité noire. Et pour Trinidad, indienne, et d'ailleurs j'en profite pour dire que au gros du mouvement Black Power aux Antilles, les Indiens pauvres, de par leurs conditions sociales, se décrivaient comme noirs. Donc tu vois, ils ne s'identifient pas en fait au mythe créole. Donc je pense que c'est important de dire qu'il y a une sécularité des idées et que même aujourd'hui en fait en France, les intellectuels africains formés aux États-Unis, comme Maboula Soumaoro, sont revenus en France avec ces idées-là dans leur poche. Des intellectuels aussi comme Françoise Vergès, qui ont un parcours aussi en partie américain, sont revenus avec les idées de la créolité et ont participé à promouvoir ces idées-là via les États-Unis en France, en fait. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une circularité comme ça qui s'est faite dans l'histoire de la créolité et de sa diffusion.
En France, on a le cousin de la créolité, c'est la propriété. Ça entraîne une coupure déjà entre les enfants nés en France de parents africains avec l'Afrique. Comme si tu n'étais plus africain, c'est parce que tu es né en Europe,
tu es devenu autre chose.
T'es devenu autre chose. Et politiquement, ça ne crée rien, en fait. Ça crée. Enfin, la traction politique, tu finis dans les trucs de Macron, là, Africa 2020, le conseil de Macron pour l'Afrique, en fait. Que l'afropénalité, ça propose de nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique sans
adresser les contradictions.
Ouais, sans passer contre un conflit, quoi. Ouais. Donc, quand tu as une idéologie pareille, tu finis avec Macron, les conseils pour l'Afrique, et tu penses que tu agis pour les deux parties. En fait, juste, tu rimbringues la palisse française, en fait. Tu agis pour la palisse française, mais tu penses que tu fais les deux, en fait. C'est ça aussi. La propriété, ça, politiquement, en fait, ça
propose de réconcilier des intérêts occidentaux et africains, alors que la nature de l'exploitation même fait qu'ils sont irréconciliables, en fait.
Ouais, ça peut créer une nouvelle classe coloniale en Afrique, quoi. Mm. Des Français noirs. Je vois pas.
Ils sont déjà là.
Oui, mais encore d'autres de France.
Encore pire.
De
toute façon, c'est déjà quelque chose qui est en place. Ouais. En France, il y a des salons de recrutement de Français issus des communautés africaines pour représenter les multinationales en Afrique. Parce qu'on sait l'effet que ça a aussi, cette double appartenance-là est instrumentalisée déjà aujourd'hui, en fait. Ouais. Comme à l'époque coloniale, de toute façon. Mm-hmm.
Ouais. C'est pourquoi, pour moi, les termes du coup d'afropéanité, je pense que ce soit l'être hybride ou l'être afropéen, ou le créole, il s'inscrit quand même dans la même volonté d'universalisation, dans le sens où si on ne peut pas détecter, entre guillemets, une essence pure, une communauté qui soit du coup africaine, asiatique, latine, américaine, du coup, ces personnes-là, elles rentrent directement dans un destin d'universalité, mais aussi dans un destin de l'homme moderne. C'est-à-dire que l'homme moderne, le nouvel homme, ne se distingue plus par rapport à sa couleur parce que, entre guillemets, on a tous un peu le même ton. On est tous un peu café au lait. Qu'on soit asiatique et africain, asiatique et blanc, il n'y a plus de différence entre nous puisque on représente les différences du monde. Et je pense que le problème avec ça, c'est Déjà, comme le disait Amel, sur le plan politique, on ne peut pas avoir du coup de... Oui, d'agissement concret en fait, parce que si on se définit comme tout et rien, du coup, qu'est-ce qu'on fait
Et des dérives avec les puissances sont totalement, les forces sont totalement disproportionnées.
Exactement.
Et les deux, c'est.
Et surtout, ça empêche de penser des identités qui sont déjà multiples. On a toujours une identité multiple. Même quand on se dit entre guillemets africain, on se dit africain par rapport à des lieux qui sont précis, mais en même temps c'est des lieux qui sont des lieux d'échange d'abord. Donc ça déjà c'est ça va être un concept qui est totalement jeté par la fenêtre. Après il y a aussi du coup cette idée là que donc on le disait politiquement, mais aussi socialement, dont c'est vraiment l'avènement du multiculturalisme. Je mange un plat indien, donc ça veut dire que je connais la culture indienne. Je vais voilà, à un cours de danse africaine, qui est en fait un cours de danse africaine souvent de Guinée ou même de l'Empire mondingue, dans l'ancien Empire mondé. Je consomme ces différentes facettes d'un autre monde. Du coup, je suis hybride. Je suis l'être cosmopolite, je suis ouais, l'être moderne. Et en tant qu'Africaine, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que oui, il faut vraiment que l'Afrique entre dans la modernité, donc entre en fait dans cette espèce de flou, mais qui a un flou très précis, où finalement, à quoi on se mélange ? On se mélange à la modernité, donc à la civilisation occidentale. C'est ça, en fait, notre destin. On va vers ça. Et c'est problématique parce que, en tant qu'artiste aussi, quand je vois, du coup, le discours sur nos arts, tout à l'heure, vous parliez du Brésil. Moi, je fais de la samba et j'ai eu beaucoup de personnes blanches, en fait, qui me parlent souvent de la samba comme quelque chose qui rejoint le Brésil parce que du coup le mélange entre les Africains, les Amérindiens, les Blancs, pouf, la samba. Or, l'histoire de la samba, comme beaucoup de danse et de musique hors Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, est très violente. La samba était interdite parce que effectivement, quand au 19e siècle, l'État brésilien est donc, forme des institutions, met en place des institutions médicales, des institutions psychiatriques aussi, pour prouver en quoi les religions, les arts, la culture noire doit être complètement effacée, parce qu'il est jugé comme mettant en danger cette nouvelle... manière de voir le Brésil, qui est un Brésil blanc, blanc et multiculturel, bien sûr, mais dans sa blanchitude. Et maintenant, la samba, bien sûr, est devenue une des choses qui représente au mieux la culture brésilienne. Regarde, c'est le croisement entre le métis, les anciens colons, l'Africain et les Amérindiens.
Il n'y a plus de... Plus d'histoire et plus de tension, d'affrontement, rien du tout.
Ouais, c'est
là... Ce sont des termes qui renvoient aux politiques de domination, qui sont des politiques d'identité nationale.
Oui,
c'est la contradiction principale.
En effet, sans plus d'historicité sur les conflits, sur les confrontations et sur des forces de résistance desquelles viennent
Surtout que
le
gros des expressions populaires en Amérique centrale et en Amérique du Sud, elle vient des masses africaines et amérindiennes. Et elles ne sont pas issues de quelconque métissage, ou pas en tout cas d'un métissage volontaire en fait. Donc il y a une énorme contradiction entre un discours bourgeois, mulâtre, qui voudrait que leur synthèse culturelle, c'est-à-dire la synthèse entre la culture de leur mère africaine et la culture dans laquelle ils baignent occidentale, le récit en fait d'émergence culturelle de l'ensemble de la population. C'est pas le cas en fait. Quand on va dans la culture traditionnelle à l'île de la Grenade, les cérémonies qui sont encore pratiquées au Ghana, qu'on pratique encore à la Grenade, quand on va dans l'art martial du stick fighting à Trinidad, qui est un art martial directement importé d'Afrique, qui, est encore, qui a été interdit d'ailleurs par les pouvoirs coloniaux pendant très longtemps. D'ailleurs, on a même interdit le carnaval parce que c'était la principale réunion de stick fighting. Il y a une énorme, je ne peux même pas faire l'inventaire, il y a une énorme liste de pratiques culturelles qui sont la manifestation de la résistance culturelle africaine malgré la déportation. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme contradiction en fait, entre les réalités culturelles vécues, maintenues, et le discours créoliste qui voudrait que nous soyons une espèce de synthèse, en plus à parts égales. On parle quand même d'espace, en tout cas les espaces africains, en Colombie, en Jamaïque, en Trinidad, on parle d'espace très majoritairement africain. Comment on pourrait imaginer que des gens issus des fois des dizaines de pays, en tout cas de peuples différents, qui soient des fois 10 fois supérieurs à la minorité blanche, puissent se retrouver sur un plan d'égalité dans la construction culturelle? C'est pas vrai. L'importance démographique des contributeurs compte dans le reproduit final. Donc il y a vraiment un récit identitaire qui est complètement faux, en fait, anhistorique.
Maloya, c'est pareil. Hein, à la Réunion, c'est exactement le même processus. Hein.
Or, les gens qui le pratiquent te disent d'où ça vient. Mais c'est le discours blanc sur cette pratique.
Tu vas à l'aéroport, ils font des trucs Mayola. C'est un truc que...
On vient te dire que la Santeria, c'est issu d'un métissage. Non, en fait. C'est la contrainte qui a produit le changement des noms des orishas. C'est la contrainte qui a fait qu'on leur a substitué certaines idoles issues du panthéon catholique. Mais ce n'est pas une volonté. Et d'ailleurs, les pratiquants de la Santeria à Cuba utilisent encore le Yoruba comme langue liturgique. Donc c'est bien qu'il ne s'agit pas d'une sorte de métissage, mais de résistance culturelle. Donc il y a vraiment une contradiction vraiment entre les pratiques et le discours
esthétique. Entre les deux, on est dans des processus d'appropriation et de légitimation, en fait. C'est ça, de la classe qui s'approprie. Le métissage sert de dispositif de légitimation de ces appropriations-là.
C'est que c'est complètement analogue à ce qui s'est passé en Amérique dite latine, c'est-à-dire qu'au moment des indépendances, donc au tournant du XXe siècle, il y a une élite locale qui était en fait dominée par l'élite coloniale des métropoles, qui, dans sa volonté d'affirmation nationale et de récupération du pouvoir politique, s'est affirmée comme métisse, s'est affirmée dans sa double affiliation à la culture indigène et à la culture de la métropole, pour justifier le fait que c'est elles qui doivent diriger. Et elles ont imposé un mythe identitaire qui a eu pour conséquence directe de taire toute revendication des minorités raciales, des gens, en tout cas, dominés racialement. Donc de taire, en fait, l'identité politique noire, de taire l'identité politique indigène, qui se pose en contradiction avec les intérêts des mulâtres et des colons, en fait. Et donc ça allait en plus de pair avec un processus de modernisation, d'exode rural, où, en fait, l'indigène, par exemple, au Pérou, quand une fois qu'il arrive en ville, qu'il perd l'usage au quotidien des langues indigènes, qu'il se mélange avec des indigènes de ville ou voire des descendants de blancs, il devient cholo. Il n'est plus indigéno, il est cholo. Et en fait, c'est ça, ce sont des identités en fait, qu'on va créer, des identités autour du métissage, qui vont effacer, enfin, qui sont vraiment dans un processus d'effacement pour créer une nationalité commune qui efface les conflits de race, sans pour autant que la hiérarchie raciale disparaisse.
La question noire. Le podcast.
Pour cette nouvelle saison, l'ensemble des sujets sera traité en deux parties. Nous nous retrouverons donc très bientôt pour la suite de cette conversation autour du métissage, de la créolité et de leurs implications politiques.
Pour conclure cette discussion, un des membres de l'équipe revient sur une idée qu'il aimerait approfondir afin de partager avec vous ses pistes de réflexion. C'est le mot de la fin sur la question noire.
Au-delà du romantisme qui se bâtit dans le débat français avec notamment l'auteur Édouard Glissant, la créolisation, en tout cas, sa réalité historique, notamment dans les mondes afrodescendants, que ce soit dans les Amériques ainsi qu'en Afrique, mais même en Asie, dans les Indes, est en réalité un projet de domination politique qui passe, entre guillemets, par le ventre des femmes, ainsi qu'une véritable politique d'ethnicide. Pour appuyer mon propos, je vais me baser sur ce qu'on appelle parfois le lusotropicalisme, quelque chose qui a été bâti par les Portugais dans leur empire colonial dès le XVIe siècle. Puisque, en réalité, les sociétés créoles, dans leur grande majorité, ont été bâties par les empires coloniaux ibériques, donc espagnols et portugais, tout en rappelant qu'en 1580, il y a eu aussi une fusion de la couronne espagnole et portugaise, bien que les empires coloniaux n'ont pas fusionné, mais il y a eu du coup des modes de circulation, de pratiques politiques, et la créolisation fait partie de ces matrices-là entre les deux mondes ibériques. Alors, la créolisation dans l'empire colonial portugais et espagnol, pourquoi le mentionner ? Lorsque nous prenons le Portugal, donc un pays relativement faible démographiquement, puisque c'est une petite nation en Europe, qui va être confronté à des masses d'individus dans les Amériques, en Afrique, voire même en Inde. Ainsi, il est nécessaire pour les colons portugais d'avoir une population qui lui est fidèle, ne serait-ce que pour garantir les garnisons qui vont garder les comptoirs, les forts. Parce que la politique d'alliance avec des chefs autochtones, qu'ils soient dans les Amériques, en Afrique ou en Inde, n'est pas suffisante. Et aussi bien avec le modèle de la Reconquista, qui donne un rôle messianique et de civilisation, c'est-à-dire une volonté de civiliser les mondes qui ne sont pas chrétiens, et de cette volonté-là, et une volonté aussi d'assimiler autrui à la culture portugaise. Et la meilleure assimilation, du coup, pour les Portugais, ça va être notamment le métissage. Donc, du coup, c'est un métissage vécu comme un ethnicide, pratiqué comme un ethnicide. C'est une volonté de désarmer les peuples autres que les Portugais, donc que ce soit les peuples des Amériques, les peuples africains, ainsi qu'en Inde, et de créer une population, du coup, qui soit non seulement rattachée biologiquement au Portugal, mais aussi culturellement. C'est là que va vraiment naître le concept de créolisation. En tout cas, c'est dans ces parties du monde-là qui va être le plus réalisé dans sa totalité. Un exemple avec notamment la ville de Goa en Inde, qui est à un moment au 16e siècle, le cœur de l'empire colonial portugais. Et tout l'enjeu du coup, pour les Portugais, c'est de maintenir une présence créole, du coup, que ce soit des Portugais qui soient nés à Goa, des métis portugais indiens, et un apport toujours relatif du Portugal même, puisque le Portugal est un pays plutôt faible démographiquement à ce moment-là. Et bien, ce modèle-là va être le modèle de base de la colonisation portugaise, notamment future. La grande aventure coloniale qui va être vraiment la base de la puissance portugaise, au point de dépasser même l'importance du Portugal, en tout cas la terre métropolitaine, c'est le Brésil. Puisque la forme impériale du Portugal, vraiment la capitale impériale du Portugal, va se trouver au Brésil. Et là encore, le phénomène de créolisation, c'est-à-dire un ethnicide des populations autochtones, et le tout sous la labellisation de la civilisation portugaise, donc un ethnicide biologique et aussi culturel, va être pratiqué à grands frais. Et dans la période contemporaine plus proche de nous, on a le cas de ce qu'on appelle l'Afrique lusophone, donc l'empire colonial portugais, en Afrique, là, on a le cas du Mozambique et on a surtout le cas de l'Angola. Angola qui est une colonie de peuplement avec une assez grosse présence portugaise. Et là où l'Angola, qui en tant que colonie est née en 1580, en 1575, et donc on a une présence portugaise au long cours, à la longue durée, et une volonté de créolisation vraiment de pousser envers les peuples africains sans même métissage forcément biologique. Donc, le but, c'est donc tuer la personnalité africaine des populations africaines. Là, je pense par exemple aux Bundu. Les Bundu, c'est le peuple autochtone de la région de Luanda qui vont le plus subir cette politique justement de créolisation qui est partie prenante de la politique coloniale du Portugal avec les systèmes des assimilados, des métissos, donc les métis, etc., où véritablement tout est fait pour détacher les populations africaines de leur environnement culturel, etc., à des fins de domination politique et culturelle, puisque la colonisation est aussi un projet civilisationnel. Et la créolisation est, pour le lusotropicalisme, non seulement un moyen, mais une fin en soi. Donc c'est, pour ses tenants, un humanisme nouveau qui permet à des peuples qui n'auraient pas hérité de la raison propre aux Portugais, à la civilisation occidentale, qui, en se mélangeant avec les Portugais, en abandonnant leur culture, peut accéder aux lumières de l'humanité.
guider.